Nous allons partir au théâtre avec Isabelle Carré et Pierre Deladonchamp, au très bon théâtre, tellement ils sont brillants, ces deux acteurs, sur scène, pour Les Amants de la Commune. On va en parler dans quelques instants avec eux. Vous allez bien d'abord, filles et garçons?
Super.
Morgane, t'as eu une nuit, comment tu qualifierais sur une échelle de 0 à 10, échelle de Richter?
5.
5 voilà.
un peu agité, mais tout de même reposant. Voilà.
Ah, t'étais seul.
Enfin, à partir de minuit.
La moitié. Sur la partie reposante.
Voici le blind test.
Tanguy, oui. Les Beatles, vous avez le chat.
Ok. Les Beatles.
C'est comme ça. Il n'y en a pas 15 dans l'histoire de la musique, hein. Vous êtes obligé de connaître celui-là. Et celui-là?
Tanguy.
Oui,
c'est Chapman. Tanguy, Revolution. Oui.
C'est le seul que j'aurais pu avoir.
Tu veux un replay?
Ouais.
Tu veux la voir?
Je viens.
Qu'est-ce que c'était bon, ça.
Ouais. Ça reste bon.
C'est vrai. Ce qui est cool, c'est que c'est moins ragard d'écouter des vieux trucs maintenant grâce aux plateformes. C'est-à-dire que il y a plus ce côté oh là là, mais t'arrêtes pas d'écouter des vieux trucs. Non, j'écoute une playlist sur Spotify.
Et il y a des vieux trucs dedans.
Et il y a par hasard. Ok, j'ai cliqué sur classic rock. Et alors où est le problème?
Non, mais il y a des trucs mieux vieilli que d'autres aussi. Il y a des trucs qui ont mieux vieilli que d'autres aussi.
Alors, c'est ça.
Ça c'est bien.
Ouais.
Il y a un côté voilà, on part sur l'autoroute A6. Très bien. Mais les années 90, il y a quand même des fois petits trucs.
Ace of Base, ça a mal vieilli.
Voyage, quand t'es sur l'autoroute, c'est pas mal.
C'est plus. Au funérarium aussi.
Qui chante ça?
Morgane.
Jennifer.
Oui.
Bah, tu vois, tu l'as eu.
Tu parles quoi? Les trucs vont bien vieillir que d'autres.
Ça, c'est bien. Et ça va revenir.
Donc, dans la vie, il y a.
Non, mais j'aurais pu l'avoir s'il n'y avait pas eu.
Mais c'est une playlist, j'ai pas choisi.
C'est très éclectique. Hein.
Deux points pour Tanguy, un pour Morgane. Je dis, Tom fait des vannes, il a rien trouvé pour l'instant.
C'est clair.
Alors, ouais, mais je peux faire une Paul Mirabel et pas parler de l'émission si vous voulez, y a pas de soucis. Hein.
Je peux faire
c'est
une
Paul Mirabel. Oh, bah c'est là, juste,
j'écoute l'émission.
Si, il est là, mais on l'entend pas.
Mais j'embrasse Paul, j'ai pas de soucis.
Qui chante ça?
Alexis.
Ouais.
Morgane?
C'est pas Bob
Morgane.
Marley.
Fait la cutie?
Pas du tout. Non, Rodi?
Bob Marley?
Mais oui!
Dans le thème, c'est la révolution.
Alors,
hein.
Voilà, comme la pièce se passe pendant la commune, genre de révolution, c'est pour ça que j'ai choisi Revolution.
Tanguy,
oui,
c'est T-Rex.
Oui!
Bravo, Children of the Revolution.
C'est un peu daté.
Qui chante ça?
Leila News?
Non. Tanguy? Offspring?
Non, mais c'est des Spring.
Non, rien, c'est Sam 21.
Non,
Green Day? Oui!
Oui.
C'est quoi?
Green Day.
Ah. Et ça, maintenant, on a envie de se lever quand même.
Et celui-là, je m'en veux.
Oui.
Attention, c'est le Super Banco. Pour l'instant, un point pour Leila, un pour Morgane, un pour Alexis. Toujours rien pour Tom Mirabel Villa. Il y a trois points pour Tanguy Pastureau.
Les quatre Tanguy, oui. Daft Punk.
Joli.
Revolution 909.
Joli. Il y a même la référence du disque.
Ouais. L'année?
Et 97.
Et qui a fait
l'album?
Qui l'a mixé?
C'est Bombas, non?
Qui a fait le catering?
Non, je sais pas.
Victoire incontestable. Tanguy Pastureau est arrivé d'Isabelle Carré et de Fabrice.
Où s'en fait? La bande originale? À
avec Nagui. Soyez les bienvenus, on est ravis de vous accueillir. Isabelle Carré, Pierre Deladonchamp, vous êtes des habitués.
Des sociétaires.
Exactement, vous avez votre carte.
Un tronc de serviette.
C'est gentil de remarquer qu'on n'offre aucun croissant, ni pain au chocolat, ni apéro dans cette émission.
En même temps, à 11h, on espère que les gens sont autonomes et ont pris leur petit déj.
Mais l'apéro...
Okay. Je ramène les pistaches.
Okay. Isabelle Carré et Pierre Deladonchamp, oui, souvent est invité parce qu'on les aime, mais pourquoi on les aime? Parce qu'ils jouent bien et qu'ils sont formidables sur scène dans ces amants de la commune. C'est pour ça que j'ai fait tout ce blind test autour de la Révolution. On parlera tout à l'heure du contexte historique de cette pièce qui est absolument passionnant. Et peut-être d'ailleurs trouvant un écho aujourd'hui dans notre vie et sur la situation politique du moment, avec Laure Godineau qui sera notre invitée. Mais c'est avant tout une histoire d'amour quand même, qui commence par un bouquet de fleurs que vous recevez, que votre personnage Isabelle reçoit, pensant qu'elle ne le mérite pas, que c'est pas pour elle, parce qu'elle fait pas partie du grand monde, et que Madame, donc une sorte d'employeur, vous a dit non, c'est pour ma fille, c'est pas pour vous.
Une actrice, ouais, dont je m'occupe. Je suis du petit peuple et je rencontre cet homme, capitaine de
militaire, voilà.
Militaire et je pense effectivement que nous sommes pas. Voilà, je vais juste lui rendre ses fleurs et finalement.
Finalement, un peu plus que ça.
Il n'y a pas de texto, de SMS à l'époque, donc il y a toute une partie de ce jeu, une épistolaire. Vous êtes chacun dans un coin, en train de correspondre à l'autre. Par moment, vous vous retrouvez, ouais. Ce qui n'est pas le cas de toutes les pièces qui jouent sur cet effet d'écriture de lettres.
C'est vraiment en fait une lecture spectacle. C'est-à-dire qu'il y a des lettres effectivement qu'on lit, mais il y a aussi des scènes qu'on joue. C'est écrit par Laurent Sesnick et Antoine Maury. Mmh. Et moi, ça m'a fait penser certaines lettres d'amour, oui, aux grandes heures de la Badie, quoi. C'est très bien écrit.
Ça se joue au Théâtre Antoine, j'ai oublié de le préciser. Vendredi, samedi et dimanche à 19h, c'est très précis, sauf les jours d'élection. C'est-à-dire vous aviez peur qu'il y ait un rapport entre la pièce. C'est-à-dire que le 10 et le 24 avril, vous disiez non, là, on va pas y aller, les jours d'élection, on va voter.
Ils tiennent les bureaux de vote, en fait. C'est ça. Pas ça.
Non, mais c'est bien d'en parler parce que moi, si j'ai eu envie de jouer cette pièce, outre le fait de travailler avec ce merveilleux acteur qui est Pierre Delalonde, Longchamp. C'était et aussi Géraldine Martineau qui a fait une mise en scène magnifique,
de la Comédie française, ouais.
Qui a vraiment un univers, qui est vraiment quelqu'un, bon, qui avait gagné le Molière pour La Petite Sirène, pour ceux qui l'ont vu, qui a vraiment un univers extraordinaire, je trouve, et qui a su faire ressortir toute la poésie, quoi, de ce couple. Outre ça, il y avait aussi le fait que, oui, on est en pleine période électorale et que là, on parle quand même d'une situation politique où il fallait prendre des engagements. Et le message subliminal, c'est ne vous trompez pas d'engagement, quoi.
Ni de mari. Puisque, en l'occurrence, Pierre Deladonchamp, militaire, lui, il n'est pas dans les ordres, mais il répond aux ordres. Ce qui est essentiel pour lui, c'est un homme de principe qui est en pleine guerre contre les Prussiens, voilà. Va au front, est fait prisonnier et ne fait qu'obéir aux ordres qu'on lui donne.
Oui, il dit à un moment, quand on devient soldat, on troque sa liberté de conscience contre son uniforme et ses galons. Et je crois que ça le décrit bien, en tout cas dans une première partie, puisque justement il va avoir un cas de conscience qui va lui faire avoir une sorte de dilemme entre son amour pour l'être humain, son amour pour cette femme et son amour de la patrie.
Alors, quand on peut voir la pièce, en effet, comme une situation très, très ancrée dans l'histoire, dans la commune, dans les horreurs de la commune où des Français tuent des Français en France, on va en parler tout à l'heure, mais aussi on peut voir ça comme une histoire d'amour.
Roméo et Juliette.
Avec, c'est ça. Oui, c'est ça. Avec des dissonances politiques.
C'est ça, de chacun d'un côté de la barricade, comment faire pour dépasser ce gouffre idéologique, en fait.
Parce que comment s'aimer quand on n'est pas d'accord, voilà, sur des principes?
Comment on fait? Comment on fait pour trouver un terrain d'entente? Ou comment on fait pour oublier que nos positions sont complètement antinomiques? Finalement, c'est aussi ça l'enjeu de la pièce.
C'est vrai que dès le début, dès la première rencontre, on voit qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, mais qu'il y a cette attirance, enfin, cet amour.
Ils ne sont pas faits l'un pour l'autre parce qu'ils ne sont pas du même milieu. Et il y a déjà ce côté, je fais partie
classe sociale.
Exactement, je fais partie des petites gens, mais pourquoi m'avez-vous regardé? Pourquoi m'avez-vous envoyé un bouquet de fleurs? Donc c'est là
ce
où
que je veux dire, c'est que quand on tombe amoureux, on tombe aussi amoureux des défauts. Mm-hmm. Et puis c'est après, dans un second temps, on se dit, ah mais en fait, je me rappelais qu'il y avait ces défauts quand même.
Ouais. Alors la phrase que l'on entend souvent à ce micro, c'est qu'on se sépare pour les mêmes raisons pour lesquelles on est tombé amoureux.
C'est un peu ça, voilà.
C'est un peu ça.
Cette légèreté du départ est vraiment chiante à la fin.
D'accord. Mais revenons à la pièce.
C'est rigolo, il y a le foot. Il fait chier, il y a le foot.
Revenons à la pièce.
Et alors
les amants de la commune, signé Laurent Sexic, avec la collaboration d'Antoine Maury, tout ça mis en scène par Géraldine Martineau de la Comédie Française. Ça se joue au Théâtre Antoine les vendredis, samedis et dimanches. On est ravis, et c'est à 19h, on est ravis d'accueillir Isabelle Carré et Pierre de la Donchamp. Nous sommes ravis, c'est pas le cas de tout le monde autour de cette table. Voici Morgane qui ne vous aime pas. Mais pourquoi
Mais non, mais Isabelle Carré, elle vient accompagner maintenant, quoi. Enfin, non, mais on lui suffit plus, ça y est, c'est terminé. Ah, c'est mais même cette émission, elle échappe pas à la crise des 7 ans, je trouve ça hyper triste. Puis pas avec n'importe qui, s'il vous plaît, Pierre de la Donchamp. Bon, en vrai, franchement, Pierre, j'aurais dit ça à n'importe quel invité qui aurait été à votre place. Enfin, je suis poli, il faut de l'audace pour dire elle vient accompagner, mais bon, Romain Duris, c'est pas foufou, quoi. C'est un peu dans mon contrat d'être poli, parce que je peux vous assurer que sinon, il y en a qui seraient repartis de la maison de la radio en chouinant, je peux vous le dire. Mais vous, je vous aime beaucoup en vrai, et je vous aime tellement que j'ai bossé.
En vrai ?
Oui. Et quand on regarde les grandes dates de votre biographie, c'est rigolo, on dirait vraiment la biographie de quelqu'un qui boude. 2001, vous entrez au cours Florent. 2008, premier rôle dans Skater Die de Michel Courtois. 2009, rentre à Nancy. Non, je vous emmerde, je rentre chez moi. 2014, César pour l'inconnu du lac. Bon, ok, je reviens, mais je veux une nomination tous les 3 ans. Bim, 2017, nommé pour le fils de Jean. Et à partir de là, ça y est, vous arrêtez un petit peu de gigoter. Vous venez aujourd'hui nous parler des amants de la commune, donc l'histoire de deux personnes en 1870 qui ne devaient pas se rencontrer et qui ne se rencontrent jamais, comme prévu dans cette pièce de 6 minutes 30. Ah, ça serait simple, hein, la vie, mais non, je plaisante. Évidemment qu'ils se rencontrent, ils tombent amoureux, après ça part en sucette, Pierre, vous perdez des guerres, il y a une révolte populaire qui fait que vous passez votre temps tous les deux à vous engueuler par lettre interposée tout en vous battant pour continuer à vous aimer, c'est crevant d'aimer et d'être aimé. Je suis en pleine forme, moi, j'ai bien bien reposé. Alors la commune, c'est toujours un peu compliqué de comprendre ce que c'est. Moi, je résumerai le tout en disant, c'est le bordel, parce que je suis également prof d'histoire à la Sorbonne. Je suis pas la meilleure, hein. C'est vrai qu'avec mes élèves, on était sidérés quand on a appris que l'édit de Nantes était un texte et pas une femme de Loire-Atlantique. Ça fait plaisir. En gros, pour ceux qui sont pas dans mon amphi, la commune, c'est un gouvernement révolutionnaire qui a duré 72 jours et qui s'est fini dans le sang avec une répression qui, en une semaine, a fait 20 000 morts. En même temps, si tout le monde passe son temps à tomber amoureux d'Isabelle Carré au lieu de réfléchir à un nouveau système, bah, tu m'étonnes qu'il y ait une semaine sanglante à la fin, quoi. Mais c'est ça, les gens. Dès quand il faut prendre les armes, on tombe amoureux du voisin ou le contraire. Moi, dès qu'un gars doit me filer un double de ses clés, gna, je suis appelé au Vietnam, je vais pas pouvoir. Mais imaginez, en 44, enfin, si les alliés s'étaient arrêtés sur la plage en Normandie pour se taper un petit pique-nique du love au lieu de venir nous libérer, bah, je suis en train de faire cette chronique en allemand, donc on se concentre, regardez le temps qu'il fait dehors, l'amour c'est pas cette semaine quoi. Vos personnages c'est un peu des Roméo et Juliette version officier et servante, et c'est marrant dit comme ça, on dirait le jeu du lundi soir d'un couple qui essaie un peu de relancer la flamme avec les costumes d'Halloween de l'année dernière. Oh, on fait encore l'officier et la servante, bah oui. Oui, Jean-Claude, on va pas prendre les costumes des enfants pour ce qu'on va faire. Hein. Puis t'es allergique au licrache, je te rappelle Spider-Man. Donc moi, je repasse pas une Saint-Valentin à Bichat, expliquer au médecin pourquoi je suis déguisée en Reine des Neiges sans la jupe. Hein, ça va. Bref.
C'est fou, on a l'image maintenant.
Oui. Mon conseil.
Et qui fait Olaf.
Et le vécu. Bref, mon conseil, prévoyez une soirée au Théâtre Antoine, c'est plus sûr. Au moins, vous relancerez la flamme de votre cerveau. Et franchement, c'est déjà ça.
Merci, Jean-Claude. Sans la jupe.
Sans la jupe.
C'est la Reine des Neiges sans la jupe. Et qui fait Olaf? Bon. Roméo et Juliette entre un officier et une servante. C'est vrai qu'il y a ce côté amour interdit, amour empêché. Il y a toute une mise en scène. Je voudrais qu'on s'attarde quand même sur la mise en scène qui est absolument remarquable parce que elle est à la fois épurée pour rester concentrée sur le texte et sur votre jeu. Et en même temps, il y a des projections, il y a l'idée de ces missives, de ces lettres qui volent.
Qui circulent.
Voilà, c'est ça, ouais. Avec des roues de vélo, ouais. Si j'ai bien compris.
Avec des roues de vélo, oui. Et ça. Des fils, qui est un fil qui nous relie. un peu comme dans La Voix humaine de Cocteau, quoi. Mmh. Ça, mmh. On a ce fil entre nous. Et oui, puis il y a ces oiseaux qui font penser à Matisse, aux oiseaux de Matisse.
Non, et puis il y a un côté temps suspendu, parce que c'est vrai qu'il faut se remettre aussi à cette période où on n'envoie pas encore une fois un texto en 10 secondes, mais où ça prend plusieurs semaines, sans même savoir si une lettre peut arriver au front, voire en prison, puisque c'est le cas dans la situation historique. Et encore une fois, on va reparler de ce qui se passait en France, mais on a une infirmière qui devient de plus en plus... concernée en tout cas par le discours politique, celui de Louise Michel, mais pas uniquement, le discours de la place de la femme dans la société aussi.
C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens du petit peuple à Paris à cette époque-là, la Commune a permis aux femmes de s'exprimer. Il y avait des clubs qui naissaient, on va en parler d'une façon historique, mais c'est vrai qu'elles trouvent aussi sa voix. Et ils cherchent à se convaincre les uns l'un et l'autre. Et elle découvre, grâce à Louise Michel qu'elle côtoie, effectivement, que les hommes peuvent autant parler que les femmes dans ces clubs qui fleurissent dans la capitale, qu'elle elle a aussi des choses à dire, à apprendre, et qu'elle n'est pas là que pour se taire et servir.
Elle l'invite d'ailleurs, au début de la pièce, à aller assister aux tables rondes de Louise Michel, en lui disant, d'une certaine façon, j'existe aussi et mon avis compte. Enfin,
oui, ce qui est beau, moi, je trouve, dans cette pièce, c'est aussi que, effectivement, le temps que l'un reçoive ce que l'autre a envoyé, il se passe
des tonnes de choses.
Et il se passe des choses qui font que le temps de recevoir une lettre, il s'est déjà passé un autre événement qui fait que aujourd'hui, c'est un SMS, et puis voilà, ton neveu est né, 3 kg 2 et puis ça s'appelle Justin, puis voilà.
Et là, c'est ça va votre famille, Pierre? Ouais,
j'ai un neveu de 3 kg 2, ça s'appelle Justin. Non, c'est pas vrai.
Quel impro!
Il aussi... c'est quand même à saluer parce que ça faisait 12 ans qu'il n'était pas monté sur scène aussi, Pierre.
Justement, ouais, sur
qu'est-ce qu'il... Il m'a épaté parce que vraiment, j'ai pas senti un gramme de trac.
Quel est le déclic, ce qui déclenche l'envie de remonter sur les planches, petit 1, est-ce le texte, la partenaire, la mise en scène, être rassuré par tous ces éléments?
3 fois par semaine.
Oui, il y avait le fait que c'était... justement, comme c'est les vendredis, samedi, dimanche, moi qui ne vis pas à Paris, ça me permet d'avoir une vie familiale en dehors, quand même un petit peu, de la préserver. Et puis c'est pas sur un temps trop long, donc ça m'a permis de faire comme si c'était un peu un tournage, voilà. Et puis évidemment j'ai couru parce que c'était Isabelle, parce que c'était Géraldine avec qui j'ai déjà tourné au cinéma dans Vaurien en tant qu'actrice. Et puis voilà, c'était parfait, vraiment tout était parfait et je regrette pas parce que ça m'a vraiment apporté des émotions bien différentes du cinéma que j'avais eu il y a longtemps. Mais
est-ce que vous y voyez la même pièce militante comme l'évoquait Isabelle, c'est-à-dire de se dire que c'est le moment aussi de réveiller certaines consciences politiques?
Bah ça c'est évident, pour moi c'est évident que dans ce contexte, en plus avec les élections, la guerre en Ukraine et puis tout ce qu'on peut dire sur ce qu'est une démocratie et la fragilité qu'on voit qu'elles ont ces démocraties aujourd'hui, je trouve ça beau. Et puis
et des tensions internes au pays, parce que encore une fois, ce qui était
ce clivage,
mais c'est fou. Ouais. Et ce qui fait peur, c'est que on a l'impression que c'était il y a 150 ans et que c'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on retrouve des phrases,
ça résonne,
des situations qui ont un écho incroyablement quotidien.
Mais ouais, je ne sais pas si le parallèle va être heureux, mais moi j'ai vraiment l'impression que les communards, c'est comme les gilets jaunes. En fait, c'est des gens qui n'en peuvent plus. Et qui disent, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut que ça change parce que nous, on survit là.
Avec des forces armées, policières ou autres qui.
Ils se trouvent à se battre les uns contre les autres.
Ouais. Ce qui est inquiétant d'ailleurs, c'est qu'on se dit qu'il suffirait d'une petite étincelle pour justement revivre cette époque-là, en fait, que c'est pas si éloigné.
On a l'impression qu'il faut pas grand chose pour que ça arrive.
Il faudrait pas grand chose.
Ouais, c'est exactement ça. Je crois qu'il y a eu cette étincelle justement et que le mouvement des gilets jaunes, quoi qu'on en pense sur le fond, sur la forme, il y a des choses, voilà. Mais il y a quand même eu un ras-le-bol de toute une partie de la population
à juste
qui disait
titre,
que voilà.
À juste titre.
Et c'est exactement ce qui se passe dans la commune. C'est des gens qui disent non, mais l'éducation, ça doit être gratuit. On doit pouvoir éduquer les filles. On doit pouvoir permettre aux gens de divorcer. Le rétablissement du divorce, quand même, la commune, ça a permis ça. Ça veut dire qu'il avait eu lieu, qu'il avait été abrogé.
Un débat sur la peine de mort, enfin, il y a des sujets qui sont toujours d'actualité.
L'abolition du travail de nuit et surtout l'abolition du travail pour les enfants.
Ouais, et puis...
Durant le Second Empire, les enfants, c'était vraiment Les esclaves.
Ils étaient exploités. Ouais. Et puis surtout, la place est faite aux femmes. Elle dit à un moment, Isabelle, son personnage, je suis dans un club de femmes où les femmes prennent autant la parole que les hommes.
Ouais, c'est
et c'est quelque chose de fou, parce que c'est...
Voilà, c'est l'avènement d'une forme d'égalité, ou cette volonté en tout cas de faire que chaque citoyen compte, quelle que soit sa classe sociale, son genre. C'est, voilà, une sorte de...
Et les bases de la séparation de l'Église et de l'État aussi ont été posées à ce moment-là.
Oui.
C'est vrai que c'est assez impressionnant de se dire qu'en 2 mois et 10 jours, il y a eu des fondements de notre société qui ont été faits presque plus rapidement qu'en 3 siècles avant nous, quoi.
Et puis il y a aussi le fait d'être attaqué de l'extérieur par la Prusse, de se défendre et même de cotiser ou de lever des fonds des Parisiens pour fabriquer des canons et contre les Prusses, et que ces canons soient récupérés par une partie de la population pour tirer sur des Français et faire des attentats. Et Louise Michel.
Là, on pense vraiment à l'Ukraine parce que c'est ce qui s'est passé à Paris. C'est que les ouvriers qui se sont battus contre les Prussiens n'ont pas digéré la défaite. On pense à des villes comme Kiev en ce moment qui se battent. Et quand le sacre du Kaiser allemand s'est passé à Versailles, il y a eu ce soulèvement de la Commune parce qu'il y a eu cette honte. On ne pouvait pas accepter cette humiliation-là.
Là où notre histoire s'est faite, là où notre histoire a grandi, se retrouve donc l'ennemi qui nous humilie. C'est un peu l'idée qui arrive. Mais moi, je voulais revenir sur, en prenant un peu de distance par rapport à l'histoire, on a l'impression que dès que l'on fait, si on fait un dîner, même un dîner de potes, et qu'on commence à parler politique, c'est là où ça peut partir en sucette et où le dîner peut finir bien avant la fin du
couple,
repas.
On peut imaginer mais aussi un couple avec une personne qui vote Front National et une autre qui vote Mélenchon. Comment on fait?
Alors, ça me semble impossible.
Je ne sais pas si le couple existe à la base.
Vous savez qu'il y a des gens qui passent de l'un à l'autre dans leur vote, donc s'ils passent de l'un à l'autre dans leur vote, ils sont capables de s'entendre, peut-être.
Oui, je pense, Alexis.
Non, mais il n'y a jamais eu autant de gens qui ont voté à la fois à extrême gauche et qui demain vont voter à extrême droite et réciproquement.
Aussi, mais je pense qu'il peut y avoir aussi des couples qui partent en vrille en parlant politique, ou qui décident de ne jamais parler politique à la maison en disant de toute façon on n'est pas d'accord, je sais bien qui tu es, je sais bien pour qui tu votes.
Est-ce que c'est important pour vous, à titre intime, personnel, l'orientation politique de vos moitiés, vos compagnons, compagnes?
Bah évidemment. Ah bah, je croyais que tu parlais.
Non, je vois. C'est une question. Est-ce que c'est une question qui se pose dans...
Bah, je pense que c'est important d'être en accord, avec des idées quand même, avec les gens avec qui on vit.
Impossible d'être amoureux
de partager
de
des convictions, de partager des valeurs, de partager.
Qui sont curseurs aussi, je crois. Il y a dans l'échelle politique qui va de très très bleu à très très rouge, on va dire. Ouais. Ben voilà. Je pense qu'il faut pas aller trop loin. Voilà, le centre.
Les pastels,
bien au milieu.
Non, mais c'est une bonne question dans la mesure où c'est aussi le sujet de la pièce, c'est-à-dire jusqu'où l'amour peut être suffisamment
peut résister,
fort,
en fait.
Peut résister à la tension, et à la discussion et au débat politique. Mais là, on tombe dans des extrêmes, c'est-à-dire, premier extrême, le couple ne vit pas ensemble, ils se retrouvent dans une situation d'extrême amour, mais l'un est prisonnier,
éloigné,
l'autre est un peu prisonnière de sa situation sociale et de sa condition, retournant à Belleville dans ce qui était des ghettos. Maintenant c'est devenu bobo, mais à l'époque c'était une forme de ghetto, faut pas l'oublier. Et puis la situation n'est pas simplement une élection communale, municipale ou présidentielle, mais c'est la guerre et c'est une révolution intestine qui vient faire que des Français se tuent entre eux. Donc c'est là où je dis que tout est poussé à l'extrême. Mais c'est ce qui est encore plus fort et passionnant dans cette pièce. Et puis on se projette, on se demande, et moi j'aurais fait quoi à leur place aussi.
Exactement, parce que c'est qu'on se mette à la place du personnage d'Isabelle ou du mien, je crois qu'on peut avoir un cas de conscience. On se demande, quand on doit obéir à notre employeur ou à une hiérarchie, qu'est-ce qu'on fait au moment où on est face à un dilemme? Est-ce qu'on désobéit mais on risque la cour martiale, ou est-ce qu'on obéit et parce que de toute façon on n'a pas à réfléchir et on y va, on fonce tête baissée? Ça, c'est vraiment...
Vous êtes documenté sur la Commune d'ailleurs, vous vous êtes renseigné sur au-delà de la pièce.
Moi j'en avais un vague souvenir, c'est vrai, à l'école, mais je trouve que là on le regarde
différemment
et c'est bien que ça prenne la place que ça doit prendre. et qu'on la regarde de cette façon-là. Là, le travail qu'a fait Antoine Maury, notamment au niveau historique, je trouvais passionnant dans la pièce.
C'est le 150e anniversaire, c'est aussi pour ça qu'on en a entendu parler davantage. Mais c'est vrai que moi, j'ai un souvenir très très éloigné en classe. Hein.
Non, mais je pense que globalement, tout le monde a bien retenu la Révolution française 1789 et autres, moins la Commune et cette semaine sanglante.
C'est la dernière révolution du 19e siècle, quand même.
Et puis c'est la naissance aussi du Sacré-Cœur. Parce que le Sacré-Cœur n'existait pas avant et Montmartre joue aussi un rôle important parce que c'est de cette butte que les canons se tournent sur Paris. Et puis pour aller encore plus loin, il y a eu des destructions, des lieux qui ont été totalement brûlés, détruits, mais qui ont reconstruit un nouveau Paris. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que ça...
C'était un mal pour un bien.
C'est ça. Ça roulait beaucoup mieux.
Moins vite, mais mieux.
Donc c'est fait. De là à dire qu'on a trouvé la solution pour éviter les bouchons.
Alors le salaud qui vient de parler s'appelle Alexis Le Rossignol.
Bonjour à tous.
Bonjour Tatoueur.
Oh, ça va bien, vous allez bien?
Ouais, bah mieux.
Et voilà, ils vont bien.
Voilà.
Les nantis. Bon, moi j'ai mal au dos parce que j'ai déménagé hier.
Ah, c'est bien.
Eh oui, mes propriétaires sont tristes. Il va falloir le trouver le prochain couillon qui aura un appart sans chauffage. Ils m'ont dit vous revenez quand vous voulez. J'ai dit il sera peut-être loué entre temps. Ils m'ont dit oh, pas sûr. Il y a des endroits qu'on quitte avec nostalgie et d'autres non quoi. Alors j'ai mal au dos surtout parce que j'ai déménagé tout seul. Pour deux raisons. La première, c'est parce que pour moi, un vrai ami, c'est un ami qui te demande pas d'aide pour son déménagement. Quoi. Quel plaisir d'entendre un pote te dire « j'ai déménagé hier » et de savoir qu'il a fait ça sans toi. Et le deuxième, c'est que j'ai jamais eu le Covid. Et la semaine dernière, on m'a envoyé un article qui s'intitule « si vous n'avez jamais eu le Covid, c'est que vous n'avez pas d'amis ». Donc bon, j'ai déménagé tout seul. Remarque, il y avait des signaux. Quand je jouais au foot, quand j'étais petit, je faisais des passes et le ballon revenait jamais. Quoi. Donc j'étais tout seul. Mais bon, je m'étais dit, c'est pas grave, c'était un meublé, je possède pas grand chose, trois cartons, ce sera fait. J'ai mis la journée entière, les voisins m'ont vu descendre les premiers cartons à 7h du mat. À leur retour du taf, j'y étais encore. Ils m'ont dit, vous déménagez? J'ai dit, non, je vais prendre l'air à des objets, quoi. Qu'est-ce qu'on accumule comme truc? À cause de cette petite voix intérieure qui nous dit, jette pas, ça peut servir. Les frags, les jette pas tes gilets, Alex, hein, ça peut revenir à la mode. Les bouquins, Windows XP pour les nuls, c'est un peu épais, mais on sait jamais.
C'est pas vrai.
Les sachets d'huile pimentée des pizzas.
Oh non.
Pareil, je garde, pareil que ça se mange aussi avec le blé, et bli. Un CD de Chantal Goya chante Noël.
Ah.
Toi, mon doudou,
oui, j'aime
mais
bien.
Où es-tu caché? Que je peux pas écouter malheureusement parce que j'ai pas de lecteur CD. Mais que je garde en souvenir de la fois où elle est venue comme invitée. Ouais. Hein, dans l'émission, une des meilleures émissions qu'on ait faites d'ailleurs. Ouais. Incroyable cette émission.
Pas là.
Voilà, elle était super.
Arrête.
Bizarrement, vous n'étiez pas là, Nagui. C'était la suite du texte. Je dis pas que ça a à voir. Alors, parmi les choses qui ont pris de la place dans les cartons de déménagement, j'avais aussi des couvertures d'avion. Ça, c'est le réflexe de prolo numéro complémentaire. Couverture de la première classe, évidemment, que tu prends discrètement au moment de repasser par la première classe quand tu quittes l'appareil. Des écouteurs d'avion aussi, évidemment, avec la fameuse double sortie jack pour pas que tu les réutilises. Un lot de DVD vierges, dont je ferai jamais rien. Je lis Micro Hebdo, ils en parlent plus des DVD vierges. Mais j'arrive pas à les jeter parce que le paquet est même pas ouvert et surtout parce qu'il y a encore le prix dessus. Et ça me fait mal d'admettre que j'ai définitivement perdu 29,50 €. Quoi. Donc je les garde en me disant qu'un jour j'aurai peut-être un cerisier et que je les suspendrai dans l'arbre pour effrayer les oiseaux.
Ouais, bien, ça
voilà.
Marche, ça marche.
Donc une fois de plus, je les ai mis dans un carton en me disant un jour pour le cerisier. Des boîtes aussi, plein de boîtes. Dès que ça fait un contenant, je garde. J'ai que ça, des contenants longs, des contenants ronds, des contenants carrés, des contenants profonds, des contenants plats. Avec quoi à l'intérieur? Plein d'autres trucs dont je sais pas quoi faire et que j'ose pas acheter. Des pièces et des billets de banque de l'étranger, par exemple. Du Nicaragua que je garde en me disant, malin, si j'y retourne, j'aurai de l'argent entre temps. Tu parles, c'est le genre de pays, tu retournes, entre temps, il y a eu un coup d'état. La monnaie d'état, la monnaie, c'est le maïs en grain. Enfin, moi, je serais là. Pero por qué? Joder de mierda. Bref, au total, j'avais 12 gros cartons de trucs qui occupent déjà toutes les étagères de mon nouveau chez moi, qui est à peine plus grand que l'ancien. Parce qu'en superficie, je suis resté sur une chambre. Hein, je suis comme Guillermo, je sature vite des autres. Voilà. Là, mon nouvel appart, il est conçu de telle manière qu'il dit « Dans l'absolu, je peux recevoir, mais techniquement, c'est pas fait pour ça. » D'ailleurs, dans le salon, je vais mettre un canapé poli, hein, avec une assise bien ferme et des petits coussins bien absents, pour bien faire comprendre aux gens qui passent que l'idée qu'ils rentrent chez eux en pleine nuit ne me dérange pas du tout. Quoi. Mais vraiment pas. Quoi. En même temps, les gens qui passent chez moi, ils sont pas nombreux. J'ai jamais eu le Covid. Allez, bonne journée, monsieur.
Bravo.
J'ai le même syndrome de Diogène.
C'est vrai.
Ouais. Vous gardez tout. Vous gardez tout.
On garde tout.
Ça, ça, peut, ça, ça, ça s'illustre comment le truc le plus absurde, ce serait quoi?
Ah bah, les contenants.
Plus déménager,
les contenants, les tote bags.
Les tote bags.
Ouais, non, ouais. Oh, les papiers.
Les tote bags, les piles.
Oh là là.
Ouais, mais après tu peux te déménager en tote bag et ça c'est chouette.
Mais non, mais le problème c'est qu'on est nombreux à s'être reconnus dans...
C'est ça le problème. Ouais.
Non, c'est-à-dire, mais je crois que même un mauvais psy pourrait expliquer ce côté je jette rien.
La peur de manquer.
Ouais, non, je sais pas.
Je pensais aux gens qui
la valeur
qui
des choses.
Oui, je me disais mais c'est, ah ouais, c'est dingue à un moment donné. Bah oui.
Garder une trace peut-être aussi.
Et t'as gardé le sweatshirt I Love New York ou tu
I Love New York?
Ouais, tu l'as pas?
Non, j'ai pas. Non.
T'as jamais aimé New York?
Il a Nicaragua, mais il a pas.
I Love Madrid.
I Love dictature du Sud, mais I Love pas New York. Ouais. On va parler donc de la Commune avec l'historienne Laure Godinot qui va nous rejoindre dans quelques instants. La pièce que nous évoquons, dont nous parlons aujourd'hui avec Isabelle Carré et Pierre Deladonchamp, Les Amants de la Commune, signé Laurent Sexic avec Antoine Maury en collaboration avec lui. Géraldine Martineau de la Comédie Française met en scène cette pièce au Théâtre Antoine les vendredis, samedis et dimanches. Il y a de la musique d'ailleurs dans cette pièce.
Nous chanterons le temps des cerises. Et guerre signal et merle moqueur.
Non, il y a pas, pardon, je suis désolé, il y a pas de musique dans la pièce. Il y a a cappella Isabelle Carré qui chante.
Ouais, ah oui. La chanson de la Commune, le chant
mais
du départ.
Évidemment, évidemment. Et vous chantez, enfin, vous la lancez, Pierre Deladonchamp, et elle continue la chanson. c'est un moment particulier quand même, parce que chanter a cappella, déjà, c'est un exercice qui est pas
évident. Vous voulez que je le fasse, là, c'est ça?
Ah ouais, volontiers.
Et je trouve que la chanson, non, mais les paroles sont magiques.
La victoire en chantant nous ouvre la barrière. La liberté guide nos pas. La République nous appelle.
Sachons vaincre ou sachons périr.
La fanfare, la nagui.
Non mais c'est formidable. Bah, bravo. L'exercice est pas simple. Et encore une fois, le faire comme ça.
À froid.
Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a donné la chair de poule cette chanson.
Ce moment-là, ouais. Il y a pas mal de moments qui donnent la chair de poule dans la pièce parce que c'est vrai que, comme vous le disiez, c'est vraiment un moment extrême. C'est un moment de tension.
Non, puis ils jouent leur vie.
Les gens se déchirent.
Ils jouent leur vie toutes les deux secondes.
Ouais, et puis toutes les émotions sont à fleur de peau parce que ce qu'ils vivent est énorme. Ils s'en rendent compte, pas forcément complètement, mais voilà, ce qu'ils vivent, même entre deux, on va pas tout déflorer, mais il se passe un événement très important dans leur vie commune.
Mais comme on peut l'imaginer aussi sur la Seconde Guerre mondiale, c'est l'occupation, il y a des Français qui retournent les fusils sur d'autres Français, se dire, est-ce que je vais être encore en vie le lendemain? C'est une question que les deux acteurs, enfin les deux personnages peuvent se poser.
Et toutes les questions sur l'engagement, mais même aujourd'hui, je trouve qu'on est face à ça, on est face à des choix. On voit bien la guerre à nos portes, on voit bien les décisions qu'on doit prendre aujourd'hui pour l'Europe. Enfin, il y a
quelle forme de résistance
quelle forme de résistance et on doit s'engager. On doit s'engager et ne pas se tromper d'engagement si c'est possible.
Et l'amour en tout ça, c'est chouette parce que c'est dans
donc
des sentiments.
Donc allez voter. Ouais.
C'est dans des sentiments exacerbés. Des sentiments exacerbés, la situation est tellement tendue qu'en fait, je trouve que le sentiment amoureux, il est encore plus beau dans ce contexte-là.
C'est vrai.
Il gagne en intensité, il gagne en force, en vitalité, toujours aussi complexe, mais il est plus fort.
Et deux questions, jusqu'où aller par amour, jusqu'où aller pour ses idéaux et sa pensée politique aussi, et ses principes. Est-ce qu'on s'assoit à un moment donné sur ses principes par amour, ou est-ce qu'au contraire on quitte un amour pour ses principes? Alexis?
Non, vous venez de dire qu'on doit s'engager, et en fait, c'est vrai qu'on est dans une période où les gens devraient s'engager encore plus, et les artistes notamment s'engagent plus. J'ai lu un article sur ça récemment, alors qu'avant, dans les années 80, c'était vraiment une tradition de soutenir notamment Mitterrand quand il est venu au pouvoir en 80, puis en 88. Et là, on voit peu d'engagement des artistes. Et ça, vous l'expliquez comment?
Je pense qu'il y a la peur des réseaux sociaux, il y a la peur de perdre...
De déplaire, en fait.
De déplaire.
Il y a le syndrome Faudel, quoi, surtout.
J'allais le dire.
Ouais, Doc Gynéco et compagnie.
C'est ça. Ceux qui ont pris position perdent la moitié de leur public.
Mais ils ont pris position à droite, en plus, dans les deux cas.
Non, oui.
Il y a aussi, moi, je vais nuancer aussi ça, c'est que...
Il n'y a plus de gauche, en fait.
Il
n'y a plus de gauche, donc en fait, si vous voulez, c'est aussi la grosse partie des artistes qui s'engageaient. C'était aussi beaucoup d'artistes en faveur du Parti Socialiste.
Mais je voudrais quand même nuancer ça, c'est-à-dire que quand on demande aussi à un artiste de s'engager, Moi, ce qui me fait peur, c'est aussi le côté people. Est-ce que ça va vraiment aider les gens de savoir qu'il y a un tel, et on se retrouve presque dans un magazine people, là, avec la, le...
Je crois que de mémoire sur le public de gauche, les artistes de gauche, les derniers soutiens, c'était autour de Ségolène Royal quand il y avait eu un concert qui avait été organisé.
Et ça, c'est des concerts. Je sais pas si c'est tellement. Moi, je pense qu'il y a d'autres formes d'engagement en fait.
Moi, je me dis très bêtement, mais je suis artiste. Bon, voilà. Est-ce que quelqu'un va m'écouter par rapport à mes idées politiques parce qu'il m'aime bien parce que je fais au cinéma. Je suis un citoyen lambda comme les autres. C'est pas parce qu'on me donne la parole plus qu'aux autres que je dois donner une injonction aux gens de voter pour un tel ou une telle.
Ce qui a remplacé le vote, ce sont les pétitions, les signatures, pour des causes plus humaines que politiques, maintenant.
Moi, je crois beaucoup à la politique dans l'art. Et les choix que je fais, par exemple, me permettent aussi de transmettre des messages. Et les gens voient les films ou qui vont voir les pièces que je fais, ben, ils peuvent avoir peut-être après des idées qui fleurissent.
C'est le cas de cette pièce. C'est le cas de cette pièce.
C'est exactement. Le cas de cette pièce, absolument. Et j'en profite puisqu'il y a Tom Villa qui est juste en face de moi.
C'est lui ?
Ouais. Tous les deux, on a fait un film qui parle des migrants et on a tourné au printemps dernier en Sicile. Voilà, et c'est un film qui va sortir bientôt qui s'appelle La dérive des continents de Lionel Bayer, un Suisse, et dans lequel Tom Villa joue.
Un continent.
Voilà un film engagé.
Qui est super. Et Isabelle Carré qui est formidable dedans, qui travaille pour une boîte qui est un peu.
Mais je peux te retourner le compliment. Voilà un film engagé et voilà un film qui va faire parler de lui, je pense.
On a hâte de voir ça. Ça
sort peut-être être invité.
D'ici l'automne, logiquement.
Très bien. Si on est encore là. La bande originale.
On va se dépêcher.
Dans la vie d'Isabelle Carré et de Pierre Deladonchamp, avant d'accueillir Laure Godino et de parler donc de l'histoire de la commune. Vous écoutiez comme musique Isabelle Carré, M, on est en 2003.
En sensuel, toi qui me donnes des ailes.
Il y a un nouvel album de M.
C'était une spéciale dédicace pour vous. Honte qui me donnait des ailes.
Et dans ces années-là, Isabelle, on vous retrouve à l'affiche de Se souvenir des belles choses. Vous recevez le César de la meilleure actrice pour votre rôle dans ce film réalisé par Zabou Breitman. 2003, 2004, le Molière de la meilleure comédienne pour L'hiver sous la table, mise en scène par Zabou Breitman, de Roland Topor.
Je lui dois beaucoup, c'est vrai.
Ouais, il y a une sorte de symbiose entre vous.
Elle m'a beaucoup appris, beaucoup, énormément. Moi, je pensais que j'allais plomber une comédie, que j'étais pas une actrice de comédie du tout, que j'allais tout plombé. Elle m'a donné confiance en moi dans ce registre-là, qui n'était pas le mien au départ.
Qu'est-ce qu'elle a vu chez vous ? Dans quel contexte elle a pu voir ce qui, les ingrédients ?
Elle a vu que j'étais dingue.
Mais non, je ne vous trouve pas dingue. Je ne vous trouve pas dingue. Je vous trouve
un peu décalée, disons. Quoi. Ouais. Voilà, un peu,
c'est quoi décalée chez
un
vous ?
Un peu étrange, un peu, je ne sais pas. En tout cas, elle a su utiliser un univers comique chez moi. Et puis me donner de la force, de la confiance en moi. Elle m'a livré aussi ses secrets de fabrication à elle, quoi. C'est vrai, c'est toujours émouvant quand on est dirigé, et là c'est le cas aussi, par Géraldine Martineau, par une autre comédienne, parce qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre de la transmission qui se fait et qui est très émouvant, qui est très chouette, quoi.
Est-ce que vous continuez de vous laisser totalement porter par ceux qui vous dirigent, ou est-ce que maintenant vous êtes passé à un stade où vous proposez, où vous avez du recul?
Je propose, mais je me vexe jamais si on me dit non.
Ouais, moi c'est pareil. Ce qu'on a fait là tous les trois avec Géraldine et Isabelle, c'est une bonne entente, et on propose, on met à la poubelle ou pas de la part de Géraldine, mais en tout cas on ose dire des choses, et il se trouve que Géraldine, elle a bien aimé certaines de nos idées, et qui sont dans la pièce, et puis d'autres qu'elle a eues, elle, et qui sont excellentes, et que nous, on a adoré parce que ça nous a porté. Voilà, non, mais c'était vraiment une très belle collaboration.
Il faut dire que Pierre Deladonchamp peut anticiper des choses, être très avant-gardiste, puisque en 2003, vous écoutiez un disque qui est sorti en 2010.
Mais c'est bien.
On m'a pas donné cette date. 2010, 2014, 2018. Donc 2010, c'est bien Stromae.
C'était
non
2000.
C'est pas grave. Date.
C'était bien vu que ça allait marcher.
Je me suis gouré.
Non, mais en même temps, c'est...
Mais vous aimez alors on danse, c'est l'essentiel.
J'aime beaucoup Stromae, ouais.
Et c'est une bonne musique pour illustrer vos débuts au cours Florent. C'est un peu un hasard, en fait. Un copain vous demande de lui donner la réplique pour le concours.
Ouais.
C'est comme ça que ça commence.
Oui, c'est vrai. Hein.
C'est fou.
Mais on a été pris tous les deux, parce qu'à chaque fois, tout le monde me dit, mais le pauvre. Non, il a été pris aussi, et on a fait les cours Florent pendant les mêmes années. Et c'est vrai qu'au départ, je pensais pas en faire mon métier. Je croyais que c'était pas, ce que c'était réservé à des gens qui avaient beaucoup plus de culture et beaucoup plus de présence dans les milieux du théâtre et du cinéma.
Et c'est vrai que votre premier cours, c'était le 11 septembre 2001?
Oui.
Waouh.
Le tout premier. Sur l'île de la Cité, île Saint-Louis. Enfin, les cours Florent avant, ils étaient sur
une île.
L'île Saint-Louis.
L'île de Ré.
Sur une île.
L'île de Ré. L'île de Lille.
Et je suis sorti.
On l'appelle Pierre le Précis. Hein,
Puis la géo, c'est vrai, vous sentez quoi, c'est vraiment là. Ah, entre la poursuite, les cartes bleues là, il les défonce.
T'as plus de GPS, t'as perdu ta bonne de la tu dis je vais où là.
Moi j'adore les gens qui planent un peu comme ça, ça me rassure. Je me dis, ah bah on a le droit alors. Ça fait du bien.
Vous avez fait un petit geste sur une île.
C'est vraiment petit.
Il n'existe plus quoi.
C'était votre tout petit. C'était tout bien. Il y a eu une toute grosse explosion. On a un tout grand pays. On était tous tristes.
Est-ce que c'était une île où il y avait une toute grande cathédrale
oui,
qui a brûlé?
Je ne sais plus. Elle a celle qui a brûlé
ouais.
En 2014, Isabelle Carré, vous écoutiez.
La chanson était sortie déjà?
Oui.
Oui.
Ah oui.
Elle flotte moins que moi.
Pas tout à fait, non, t'inquiète. Et Isabelle, en 2014, vous apprenez la langue des signes?
Oui, c'était pour un film Marie Hurtin.
Biopic sur une femme aveugle.
Absolument, mise en scène par Améris.
Ouais.
Avec Jean-Pierre Améris, avec j'ai fait trois films. Voilà, et j'ai adoré, c'est vrai, la langue des signes. Je continue à communiquer
pratiqué.
Un petit peu, mais j'ai un peu oublié depuis.
Wow. Dit-elle en nous faisant les signes en même temps.
En faisant les signes, ça vous aide vachement à la radio.
Non, c'est beau.
Non, mais il y a des signes qui sont magnifiques.
Il faut dire qu'on est la radio la plus écoutée chez les sourds, donc c'est important que vous fassiez ces signes.
C'est le signe de l'émotion, c'est magnifique.
Quand,
ce signe.
Ouais. Quand vous la croisez les
poule.
Points,
ouais, la chair de poule, ouais.
La chair de poule, les poils.
S'exprimer, c'est comme des fleurs qui s'ouvrent dans le cœur.
Ça met longtemps pour apprendre à signer. Vous avez travaillé beaucoup.
J'ai beaucoup travaillé pendant 4 mois, 3 fois par semaine. Et à la fin, j'étais quasiment bilingue, mais j'ai presque tout oublié. Comme je vous ai dit, c'est très dommage parce que tout le monde devrait apprendre la langue des signes.
Je suis absolument d'accord.
C'est sublime.
La tristesse.
Ce que je comprends pas, c'est qu'on l'apprenne pas à l'école.
Alors moi, c'est pas ce que j'allais dire, c'est que ce n'est pas la même langue des signes en fonction du pays. Ah ouais. Et je trouve fou.
Mais on s'adapte très vite. On comprend vite quand même.
Mais enfin,
c'est des petites nuances.
C'est quand même,
ah oui, mais
c'est quand même dommage.
Parce que ta base, c'est leur mot dans une langue.
Oui, mais comme on parle d'émotion, quand on parle d'émotion, si tu veux faire cœur avec les doigts, c'est le même geste dans le monde entier.
Donc c'est la langue la plus parlée au monde, en fait, la langue des signes.
Ça pourrait, mais malheureusement, ce n'est pas la même.
Mais il faudrait l'apprendre à l'école, il faudrait que ça fasse vraiment partie
de... Je suis d'accord. Pierre de la Donchon, en 2014, vous écoutiez.
Bon, c'est la bonne année. Vous me dites, sinon j'en ai d'autres.
La musique, d'ailleurs, dans votre vie, elle prend quelle place? Est-ce que systématiquement, vous mettez de la musique le matin en vous réveillant? Est-ce que pour rentrer dans un personnage, dans un rôle, que ce soit au théâtre ou au cinéma, vous avez une espèce de playlist qui correspond à une humeur?
J'ai eu ça pendant longtemps dans mon téléphone, une playlist pour les rôles. Et puis je l'ai abandonné. Des fois, ça m'arrive encore de réécouter des musiques, mais pour mon métier, en tout cas, pas vraiment. Par contre, dans la vie de tous les jours, j'écoute beaucoup de musique et de tout. Vraiment, j'assume mes goûts très éclectiques qui vont du easy listening aux chansons plus exigeantes. Il y a une un style que j'arrive toujours pas à trop aimer et je sais que je me fais beaucoup d'ennemis quand je le dis, mais c'est le jazz. Je suis pas très sensible au jazz. J'arrive pas. Il y a un truc qui se passe pas, quoi.
Mais le métal?
Non plus.
Ah.
Non plus.
Je partage le métal.
J'aime bien la pop, le classique.
L'électro.
L'électro, ouais, j'ai des morceaux que je trouve super et même des trucs de un peu, comment on dit, discothèque, ouais, voilà, commerciaux, ça peut m'arriver de les écouter à tue-tête dans la voiture.
Et puis vous avez un rapport aussi à la chanson particulière, il y a des chansons, je sais pas quoi, comment le dire, mais...
Oui, j'ai perdu mon frère et il était auteur, compositeur, interprète et il avait écrit, c'est un peu son ce qu'il nous a laissé, c'est des chansons qu'on a découvertes plusieurs années après son décès. Donc c'était un peu comme un trésor.
Bouleversant.
Ouais. Pour revenir à l'année 2014, Pierre, on vous retrouve dans L'Inconnu du Lac, c'est un film qui... a bouleversé, enfin qui ne laisse pas indifférent. C'est un film d'Alain Guiraudy qui ne laisse pas indifférent, qui est vous aussi a changé une grande partie de votre carrière.
Ça a changé ma vie, oui.
Ouais.
Avec, c'est un chef-d'œuvre.
Avec le César, bien entendu. Ouais, c'est un chef-d'œuvre vraiment. C'est un film qui a une part particulière dans votre vie en tout cas.
Ah oui, c'est énorme ce que je dois à Alain Guiraudy, à ce film, et puis toutes les hésitations que j'avais par peur de la nudité, en fait ça s'est retourné complètement, c'est-à-dire que plutôt que d'être une malchance, ça a été ma chance, et donc je me dis franchement j'étais bien inspiré de
dire
d'y
oui.
aller.
Ouais.
C'était la nudité qui était inquiétante ou c'était jouer l'amour avec un homme et le regard qu'on pouvait en avoir. Je pense aussi à des films comme Brokeback Mountain qui pouvaient poser des problèmes à certains acteurs. Je n'ai pas joué ce genre de rôle au cinéma.
Pour le coup, c'était vraiment la nudité.
D'accord.
C'était vraiment quelque chose qui me faisait un peu peur, et parce que je sais pas, c'est le costume chez un acteur, ça fait du bien, et quand il n'y en a pas du tout, c'en est un, mais ça, on est à nu doublement, quoi, donc dans les émotions, dans son corps.
Je pense que Isabelle pourrait en parler pour avoir fait un film totalement nu du début jusqu'à la fin.
Si non.
la femme, c'est la femme défendue.
Ah ben non, mais c'est 5 minutes où je suis nue, mais ça vous a marqué, à mon avis.
Il a mis pause. Non, il y a son lecteur DVD qui buguait et qui remettait toujours la séquence.
Il y a 5 minutes,
Il y a 2h30, non?
Mon expression du début jusqu'à la fin, c'est que c'était très long pour une scène nue, c'est ça que je veux dire.
Alors, par rapport à du Kechiche, c'était vraiment très léger.
C'est vrai que ça change.
Je sais pas. Ouais, non, mais.
Non, si, c'était long. C'était long. Arrêtez.
Pour moi, c'était long, mais apparemment.
Moi, c'était encore plus long.
Ça devient gênant. Et bon appétit, bien sûr.
Bon, allez, les amants de la commune. C'est.
J'adore ce moment.
C'est vrai. On a plein d'histoires sur la nudité, tous les deux. Je suis en train de penser aussi au théâtre.
Okay. On coupe les micros, s'il vous plaît.
C'était à Salle Réjeanne, si j'ai bonne mémoire. D'ailleurs,
ça c'était quand je jouais.
Exact, l'hôtel. Oui, ben oui. Si, il y avait un moment où.
Quand je jouais Mademoiselle Else, effectivement, j'avais une scène de nu, de dos. Mais j'avais découvert qu'il y avait un reflet qui m'avait échappé.
Ah, yes! Oh mon Dieu.
Mais qui n'avait pas échappé à
la bonne surprise.
Les amants de la commune est au théâtre Antoine et c'est une mise à nu en termes d'image et en termes d'amour entre ces deux personnages interprétés par Isabelle Carré et Pierre de la Donchamp vendredi, samedi et dimanche. Nous parlons donc de la commune avec vous. On a gardé, entre guillemets, ce moment, Laure Godino, pour s'intéresser à ce moment de l'histoire. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
À ce micro, on disait que ce moment d'histoire trouvait un écho particulier aujourd'hui avec cette fameuse phrase, je crois que c'est Marx qui avait dit « l'histoire ne se répète pas mais elle bégaye », où on retrouve une situation qui pourrait être, tout à l'heure Pierre de la Donchamp disait peut-être même un peu les gilets jaunes, ou un écho particulier aujourd'hui.
Ah oui, absolument. Alors bon, d'abord il y a l'écho qui est lié à la commémoration, ou en tout cas à l'anniversaire, parce qu'il n'y a pas franchement eu de commémoration, mais il y a eu un anniversaire, et effectivement ça a fédéré un certain nombre de personnes autour, je pense, d'idéaux. Alors après, on cherche dans la commune aussi ce qu'on veut, il y a différentes, enfin, on y trouve ce qu'on veut, mais quand même, ça fédère quand même un certain nombre d'idéaux qui sont importants à l'heure actuelle.
Justement, et pourtant, c'est pas un moment de l'histoire où on a le sentiment que ça marque, ça imprègne dans l'éducation, dans les programmes historiques. On tout à l'heure, on disait que tous, on avait évidemment des références sur 1789, sur la Révolution, moins sur la Commune, et pourtant, ça a été extrêmement important, y compris pour des avancées dans notre société.
On parlait de la séparation, par exemple,
Église et État.
Oui, alors, ça n'est pas enseigné, enfin, ça n'a pas été enseigné pendant très longtemps, mais c'est lié aussi à notre histoire, à notre République. Parce qu'en fait, on parle de la Révolution française, mais ça fait partie de notre mythe national, de notre mythe républicain. Mais en revanche, la Commune, ça a été laissé de côté par la Troisième République au moment où elle se fondait, où elle instaurait ses mythes républicains. Et donc, voilà, c'était au début de la Troisième République, c'était quelque chose, c'était aussi un choix, c'était le choix d'une République sociale. sociale et pas d'une république qui soit simplement un changement de régime.
On est en guerre contre la Prusse, on est envahi par les Prussiens et une partie essentiellement prolétaire, ouvrière, se retourne contre ceux qui sont les républicains, ceux qui étaient au pouvoir et Louise Michel veut assassiner
Thiers
à Versailles.
Et
c'est le premier signe du retournement des communards, comme on les a baptisés, contre ceux qui étaient au pouvoir.
Alors, en fait, il y a une dimension patriote. Donc, effectivement, il s'agit de défendre la patrie, mais c'est la patrie républicaine qu'il faut défendre. Donc, il y a une dimension patriote, il y a une dimension républicaine, et puis il y a une dimension sociale quand même.
Qu'est-ce qui réveille les communards? Qu'est-ce qui les réveille entre guillemets?
C'est la défaite. Alors, c'est la défaite, mais en fait, ça faisait longtemps qu'il y avait un mouvement qui était en germe. Donc, on peut le lier effectivement
qui
à la
était
défaite.
Social, lui.
Comment ?
Qui était social.
Oui, c'est ça. Il y avait un bouillonnement social. Donc, on peut le lier à la défaite. Et effectivement, c'est le déclencheur. Mais derrière, il y a tout un mouvement de fond parce qu'on rêve d'autre chose. On veut mettre fin au vieux monde. C'est ça l'idée.
Et le rôle des femmes, parce qu'on parle beaucoup de Louise Michel, mais elle n'a pas été la seule.
Non, elle n'a pas été la seule. Alors, bien sûr, Louise Michel, c'est une icône. Il faut quand même préciser qu'à ce moment-là, les femmes ne votent pas et ne sont pas élues. Mais elles sont là dans l'espace public, elles sont là dans les clubs, elles sont là aussi, elles se battent, puisqu'elles sont là sur les barricades à la fin. Et donc, on voit dans la pièce qu'il y a aussi Elisabeth Dimitrieff, qui est une jeune russe, donc ça met aussi en lumière le rôle des étrangers pendant la Commune. Qui est toute jeune, et puis il y a toutes les femmes aussi du peuple qui sont là, qui sont des anonymes et qui vont prendre parti pour la Commune d'une certaine, enfin en étant dans la rue, en prenant la parole, en adhérant aux idées. Après, il y a aussi des femmes qui ne participaient pas.
On parle des pétroleuses associées à la Commune.
Alors les pétroleuses, c'est une légende, et d'ailleurs même les anticommunards ont reconnu que c'était une légende. Les pétroleuses, parce que donc il y a eu des incendies à Paris au moment de la dernière semaine de mai, quand l'armée versaillaise réinvestit Paris, et donc il y a de très grands incendies de bâtiments publics, et donc une très grande partie a été allumée par les communards, et donc on accuse les femmes d'avoir mis le feu à Paris avec du pétrole, d'où cette légende de la pétroleuse qui n'est fondée sur rien, mais évidemment il y a à la fois un mépris de classe, un stéréotype de genre, parce que c'est la femme qui met le feu. Et puis,
Mais c'est vraiment une partie de la société française qui se retourne contre une caste qui les dirige.
Alors,
parallèle et la comparaison avec les Gilets jaunes ou avec Nuit Debout, par exemple, c'est vraiment ce
sentiment-là. Oui, d'ailleurs, il y a une partie des Gilets jaunes qui se revendiquent de la Commune, ou en tout cas qui y font référence, Nuit Debout aussi. Donc c'est effectivement, à ce moment-là, une insurrection populaire, quand même. Une insurrection populaire contre un pouvoir qui est un pouvoir conservateur, qui est un pouvoir d'ordre, et qui, de fait, cherche à maintenir un certain nombre de rapports sociaux qui sont des rapports sociaux de classe.
Et la religion en prend aussi pour son grade, parce que c'est le moment où on s'attaque à la religion
et la Commune était anticléricale. Il y avait une très forte dimension anticléricale dans le peuple parisien. C'est lié aussi au fait que l'Église avait été liée pendant très longtemps, enfin était liée à la monarchie, donc il y a aussi cette dimension républicaine.
Elle avait un pouvoir énorme.
Et puis encore, il y avait une dimension politique, il n'y avait pas simplement une dimension religieuse. Donc effectivement, il y a un très fort anticléricalisme. Alors, on parle beaucoup de la séparation de l'Église et de l'État, et c'est vrai que la Commune donc décrète la séparation de l'Église et de l'État. Et puis il y a un anticléricalisme populaire aussi.
Et puis il y a un moment fort dans la pièce, c'est quand spoiler et de divulgâcher un tout petit peu un moment, mais lorsque les soldats français sont prisonniers des Prussiens, ils sont libérés par les Prussiens pour venir tirer contre les Français et pour défendre, entre guillemets, la Prusse.
Alors moi je trouve que dans cette pièce, c'est extrêmement émouvant. Donc je suis très heureuse aussi d'être là, parce que je trouve que c'était pas facile de dire la Commune de cette façon, avec autant d'émotion. Donc vraiment, là, encore merci pour cette invitation. Et effectivement, on voit ces soldats qui sont libérés parce que c'est quand même une armée de 120 000 hommes qui rentrent dans Paris et en une semaine qui réinvestit Paris avec donc une répression qui est extrêmement violente.
Oui, ils mettent les communards les uns à côté des autres contre des murs et ils les fusillent par voilà, un groupe de 10 et ça y va et ça y va et ça y va quoi.
Moi, chaque fois que je vais au Luxembourg, je vois cette balustrade du Luxembourg, donc les gens prennent le soleil, heureusement, mais il y a une petite plaque où on fait allusion à ces massacres de communards juste le long de cette balustrade. Donc on a encore quelques traces dans Paris de cette violence de la répression. Et effectivement, on a libéré des soldats qui avaient été engagés dans la guerre pour contribuer à cette répression.
Puisque vous vouliez, on voulait évoquer la Commune avec vous, vous vouliez rendre un hommage à Jacques Rougerie.
Oui, alors Jacques Rougerie, c'est le plus grand historien français de la Commune. Et donc, il est décédé la semaine dernière. C'est une page qui se tourne, mais il a beaucoup contribué à renouveler l'histoire de la Commune. En particulier, il a insisté sur cette notion de démocratie vraie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? La démocratie, c'est la démocratie politique et c'est la démocratie sociale, c'est la démocratie vraie.
C'est vrai que notre regard sur la Commune a changé beaucoup, au fil du temps. La façon dont on nous l'enseignait, nous, quand on était à l'école et dont on l'enseigne aujourd'hui a radicalement changé, non ?
Oui, alors lui, ce qu'il a montré, c'est que c'était une insurrection du peuple parisien, c'est-à-dire que c'était pas le prolétaire du XXe siècle.
C'était très parisien, quand même. Pardon, c'était pas un.
Alors, il y avait des mouvements communalistes en province.
Ah, pardon, d'accord. À Lyon, c'est notamment. Que à Paris, d'accord.
Non, il y a une commune. Oui, il y a une commune à Lyon, il y a une commune à Marseille, il y a une commune à Toulouse. Donc, il y a des mouvements communalistes en province, sauf qu'ils sont très vite réprimés.
Merci beaucoup en tout cas Laure d'être venue à ce micro, Laure Godineau qui signe notamment La Commune de 1871 expliquée en images, c'est publié aux éditions du Seuil. Tanguy Passureau, de quoi vas-tu nous parler dans la dernière demi-heure ?
Eh bien vous savez, en journalisme il y a ce qu'on appelle un marronnier, c'est le truc qui revient souvent, le sujet qui revient souvent, moi j'ai le mien, le classement du journal de Mickey des 7-14 ans que je fais chaque année. Nagui, mauvaise nouvelle pour vous cette année.
Ouais je sais.
Mauvaise nouvelle.
Tanguy Passureau, Alexis Le Rossignol, Tom Minard, et nos invités Isabelle Carré et Pierre de la Donchamp. Une pièce qui non seulement va vous émouvoir, mais prête à discussion, à réflexion, ce que l'on a fait tout à l'heure avec Laure Godineau. Moi, je trouve ça.
On apprend plein de trucs.
Oui, on apprend plein de trucs, et puis surtout, faut pas oublier que en une étincelle, tout peut revenir extrêmement rapidement. On a l'impression qu'une fois que l'histoire a été faite, on tourne la page et on passe à autre chose. Ben non, il faut pas grand-chose pour que des conflits naissent et une guerre intestine puisse arriver. Et il y a eu plusieurs moments, donc il y a pas de raison que ça ne se reproduise pas, pour que des Français entre eux se tuent, se massacrent, ou soient manipulés par l'étranger aussi, parce que c'est ce qui se passe. Là, on l'a dit.
Les cas de conscience aussi ça peut faire naître. Je pense à la phrase de Camus, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère.
Bien sûr.
Et justement, c'est une histoire d'amour entre son amour et son pays, ou la liberté, ou les principes, ou l'honneur. Que va-t-elle choisir ? Que va-t-il choisir ? En plus, on rajoute à cette dose de tension politique une situation très particulière de rang social pour le personnage d'Isabelle Carré, et puis situation particulière de devoir tout simplement répondre aux ordres et obéir sans discuter, même si ça n'a pas toujours été le cas dans les armées, mais là en l'occurrence, votre personnage se doit d'obéir.
Oui, et il sait qu'il va être amené à combattre les idées et donc les gens qui défendent ses idées par rapport à la Commune et la personne qu'il aime devient tout doucement une communarde.
Donc, Isabelle Carré, Pierre de la Donchon sur scène avec les amants de la Commune au Théâtre Antoine, les vendredis, samedis et dimanches. C'est facile de jouer côte à côte et de faire comme si on se voyait pas, ou c'est gênant, ou c'est troublant.
De temps en temps, quand même, on a des scènes, heureusement, des scènes très intenses. D'ailleurs, on se regarde et on pleure ensemble.
Ouais. Moi, j'aime bien aussi les scènes où ils s'écrivent et ils se regardent comme s'ils étaient ensemble. Il y en a une ou deux et je trouve ça très beau parce que c'est parfois très tendre et parfois très violent. selon ce qui, ce qui se dit dans ces lettres.
Et il y a même des scènes où ils s'écrivent, où ils se répondent immédiatement cette fois-ci.
Et voilà, ouais, il y a aussi un enchevêtrement de morceaux de lettres.
Ouais. Ouais. Et puis aussi un système de projection très, très élégant qui n'est pas, j'allais dire, on n'abuse pas de la technique ou de la technologie, non. Mais c'est au contraire très, très léger dans tous les sens du terme, parce qu'il y a, ouais, y a toutes, ouais, ces lettres qui volent et qui s'envolent.
Et ça correspond bien aussi à la part d'enfance de Géraldine Martineau, à la part d'enfance de Pierre.
Nous trois, en fait. Nous
je
trois.
Trouve qu'il y a vraiment une lumière qui est magnifique quand je vois douce, ouais, Pierre sur scène, sa lumière. C'est... Donc, de temps en temps, quand même si je ne suis pas censée le regarder, je le regarde.
Pour le plaisir. Au théâtre Antoine.
Vous êtes un peu sa luciole.
Je ne l'avais pas payé.
Isabelle Carré, les amants de la commune. Mais ça ne va pas, non. Voici Tanguy Passio.
C'est pas si bien que ça la vie, hein. On s'y accroche parce que la mort c'est pire, mais c'est tout. Voilà, bonne journée.
Ah non, à bientôt,
mais déjà
merci.
On s'ennuie, toutes les années se ressemblent, on fait tout dans le même ordre, il y a Noël, puis Pâques, puis Roland Garros, que les joueurs de tennis français appellent notre Saint-Barthélemy, puis l'été, on se roule des pelles en disant finito le Covid, puis la 19e vague de Covid, puis Noël et ainsi de suite, et on se voit vieillir les uns les autres. Je me souviens, il y a 5 ans, quand je suis arrivé ici, on était tous frais, conquérant Mars, maintenant on ressemble à des tas de foin. Même moi, je sais que vous dites c'est fou, mais quel chaque jour et arrive à se renouveler, mais quel génie,
oui.
Mais c'est juste que je suis habile, je vous entourloupe, tel un juif du sentier en 84, quand vous cherchez une doudoune Chevignon, et que vous repartiez avec une doudoune Chavignon, 14 francs à la place du canard, il y avait un chat. Deux jours plus tard, vous entendiez miaou, vous l'ouvriez avec un cutter, dans la doublure, il y avait 5 chatons encore vivants, c'était fabriqué trop vite. Ah, vous disiez, bah, c'est ça les griffures que j'ai dans le dos, dire que ma femme m'a accusé de faire du BDSM sans elle. J'ai un ami qui un jour a retrouvé dans sa doudoune Kim, un enfant philippin de 8 ans, tombé de la chaîne de production. Il l'a adopté, mais à sa majorité, le gosse a voulu repartir d'où il venait. Seulement, il rentrait plus dans la doudoune. Hein, il a fini sa vie dans une parka en XXL. Bon, tout ça pour vous dire que je vous arnaque. Parce que moi aussi, je fais les mêmes chroniques d'une année sur l'autre. Par exemple, le classement des stars préférées des 7-14 ans du journal de Mickey. Allez. Chaque année, je le fais. Negui, je vous ai connu 18e, ouais, puis 25e, 34e, et cette année,
classement,
vous avez disparu.
Eh,
voilà, non, oui, non. Le 7-14 ne vous aime plus.
Je me suis fait Mickey.
Il faut le reconquérir. Ma suggestion, faites la sortie des écoles. Pas avec des bonbons, c'est trop connoté. Prenez des andouillettes, de grosses andouillettes. Agitez-les devant une école du 11e arrondissement, Taubira Land. 80% des gosses ont des parents vegan. À la vue de votre andouillette, ils vont ramper vers vous comme des zombies.
Mais en faisant bidoche,
bidoche. Mais Nagui, ne soyez pas triste.
Voilà.
Ne soyez pas triste, à part Nikos qui est 41e sur 43. Toutes les stars de la télé sont sorties du classement. Il n'y a plus que des rappeurs et des footeux. Dire que ces enfants, dans 4 ans, pour certains, votent, hein, ça fait peur. Écoutez plutôt numéro 43, Ayana Kamura. 42, Weshden, 40, Joule, en 38, on a Jennifer, en comparaison, on a l'impression que c'est le prix Goncourt. Le 7-14 ans est une merde. Vive la contraception. Auditeur vierge qui m'écoutait, ne faites pas l'amour. Ou alors protégez-vous au maximum. Pilule, plus préservatif, plus slip chauffant, plus émasculation, plus chanson de Stromae sur la fin de vie. Vos spermatozoïdes iront se cracher sur l'ovule afin de se suicider en criant Allah Akbar si vous avez fait l'amour à un djihadiste. Oui, pensez contraception, parce que vous faites un bébé tout mignon, qui fait heureux. Un jour, vous chialez de bonheur en disant « il a dit papa », alors qu'en fait, le gosse a fait « parce qu'il a vomi. Hein, et bon, et 10 ans plus tard, ce petit pourri vous révèle qu'il est fan de McFly et Carlito, entré directement 14e du classement. Et vous pouvez pas vous en séparer. Dans la parka, vous avez déjà foutu votre enfant philippin. Il y a plus de place. Vous imaginez Lila Kadourboudadi, qui a lu tout Kant, connaît la fiche technique de 80% des films. Elle peut dire sur le dernier Frère d'Ardenne, la stagiaire de 3e s'appelait Léonie Dupont. Et pour elle, Vivaldi, c'est de la variété. Et dont la fille, en 2030, va lui dire « maman, je kiffe trop Weshden.
Hein,
j'ai adoré son 7e album intitulé « J'ai pas allé à l'école ». Mais elle va être désespérée. Alors bien sûr, j'exagère. Les 7-14 ans, oui, les 7-14 ans aussi plébiscité des artistes à texte. Un numéro 36, on a Amel Bent, voilà.
Okay.
34, Vita. Alors juste avant de choisir son pseudo, elle avait mangé au-dessus de son ordi une tartine de miel, donc la lettre A collait. Hein, ça a fait la même chose à MC Solar et au AA, alcoolique anonyme. Hein, au départ, il voulait appeler ça Happy JL, hein, amical des personnes comme Jean Lassalle. Vianney, 29e, perd 16 places. Alors on sait pas pourquoi, il a dû faire un truc qui a déplu aux enfants. Il a peut-être écrasé un pépito, ou a été filmé en train de dire du bien de Marc Dutroux. Et là, vous vous dites, oui, on est dans les profondeurs du classement. Ça revient à aborder la présidentielle par le prisme de la candidature d'Anne Hidalgo. Qui est premier? Eh bien, foule impatiente, il s'agit de Soprano, le rappeur, la seule personne à porter des chapeaux et à ne pas être ménopausée depuis 50 ans. Ce que les autres, c'est Geneviève de Fontenay et Elisabeth II. Alors, il était déjà numéro 1 l'an dernier. En numéro 2, entré directement tout là-haut, c'est Michou. Alors non, auditeur d'Inter, on n'a pas ressorti du terreau le monsieur de Montmartre qui a lancé dans sa carrière 3000 Dalida poilu. Non, c'est un autre Michou, un youtubeur. Et c'est le premier youtubeur à figurer dans le classement Mickey. Alors il a 20 ans, il est né dans la Somme, dans une commune qui s'appelle Albert. Ouais, je sais, c'est bizarre, hein, à l'école on a dû lui dire 100 fois, mais enfin petit con, à la ligne ville de naissance, t'as mis le prénom de ton père. Il répondait, non, Albert c'est ma ville de naissance. Le prof disait, c'est ça, moi je suis né à Huguette, enfin il s'en sortait pas. Hein, donc il a arrêté l'école, comme tous les youtubeurs. Enfin, le 7-14 ans adore le foot. Le foot, c'est son truc. Kylian Mbappé est 3e, Hugo Lloris 5e, Griezmann 8e et Didier Deschamps 35e. Hein. Le sélectionneur, c'est comme le batteur dans le monde du rock, c'est celui dont les gens n'ont rien à foutre et qui tient la chandelle pendant la partie fine. Bref, Nagui, vous avez compris ce qu'il faut faire à la télé. Je veux dire, c'est fini. Je veux vous voir en crampons, en short, avec un maillot à sponsor, le Gaulois, pour faire plaisir à Éric Zemmour. L'an prochain, je veux vous voir de retour dans le classement du journal de Mickey.
Ça sera pas possible.
Je vais consoler Nagui. Avec une petite citation de Cocteau. Ce ne sont pas les premières places qui sont intéressantes. Celles qui m'intéressent, ce sont les places à part.
Oh, joli. Oh, joli.
Céline Dion a dit les derniers sont les premiers.
Ça va faire un petit
chacun sa rêve.
Voilà. Et Jésus dans tout ça.
Jésus. Mais ils s'entendaient bien tous les deux.
Pierre Deladonchamp, Isabelle Carré au théâtre Antoine avec les amants de la commune des vendredis, samedi, dimanche à 19h. D'autres événements dans la culture, Leïla.
Si je vous dis Laurent Lafitte, Joséphine Japy, Fabrice Lucchini, je parle du casting de...
Ouais, le biopic.
Sur Bernard Tapie. Ouais.
Absolument, série Netflix, biopic, Wonder Man. Cette série sur Bernard Tapie, où en effet c'est Laurent Lafitte qui va se glisser dans la peau du businessman, avec un petit jeu de mots, Wonder Man, par rapport aux piles.
Wonder.
Et voilà.
J'ai même pas compris.
Ouais, mais moi non plus.
J'ai fait le casting de cette série, moi.
Ils l'ont dit.
C'est vrai ?
Pour faire quoi ?
Une pile.
T'es sérieux ? C'est pas possible.
Tu sais tout. Non, mais en vérité, j'ai fait le casting.
Et pour faire quoi ?
Bernard Tapie,
pour faire un syndicaliste dans cette usine de piles qu'il rachète.
D'accord, ok. Eh bien, au casting, on aurait pu avoir Alexis Rossignol.
J'apprends que j'ai pas été pris, d'ailleurs. Mais non. Parce
que j'ai pas été pris. Ils ont même pas rappelé.
On vous rappellera.
C'est la première pile qui fait un court jus.
Le tournage se déroule en ce moment entre Paris et le sud de la France. Désolé, Alexis, dépêche-toi. Question sur le monde des séries. Pierre, vous avez expérimenté avec Mixed, une série sur Amazon.
Qui était formidable.
Qu'est-ce que ça change ? On a parlé tout à l'heure des sentiments qui changent au théâtre par rapport au cinéma, mais la série, qu'est-ce que ça change ?
Moi, j'en avais fait d'autres avant sur des chaînes de télé. Pour moi, ça change rien du tout. Si ce n'est que le rythme est parfois un peu plus soutenu, et encore, ça dépend des productions. Moi, je vois à chaque fois une série comme un très très long film. Mm-hmm. Alors, qui peut, voilà, faut pas la regarder
faut
d'un coup,
s'entendre.
Il faut
bien s'entendre sur le tournage. Mais
Et puis mettre dans sa tête le parcours du personnage. Voilà, ne pas trop anticiper ce qui va arriver et puis voilà, bien penser que le spectateur va le voir évoluer chronologiquement alors que nous on tourne pas chronologiquement.
Bien sûr.
Échanger, tourner pour une chaîne de télé et pour une plateforme, là c'est encore
est-ce
autre chose.
Est-ce qu'il y a une différence ou pas ?
Oui, parce que pour...
C'est une bonne question ça.
Ouais.
C'est
Mixed par exemple, je crois qu'il était question d'une saison 2.
Oui, et puis les plateformes, elles ont des visées différentes voilà, c'est un nouveau monde et donc
c'est eux qui décident en fait.
Oui, puis voilà, ils décident et même il y a des gens qui ont voulu une saison 2 et ils sont tous pleins et tout ça machin, mais ça fait changer personne puisque c'est vraiment
Ça change pas des chaînes de télé, c'est la chaîne qui décide et qui continue ou pas une série.
Par exemple, Agnès Jaoui à ce micro nous disait que travailler pour une plateforme, c'est qu'à un moment on va vous dire ce plan-là tu vas le couper parce qu'il fait 15 secondes, nous on veut qu'il en fasse 8.
Et puis j'ai le pouvoir, quoi.
Et il y a une forme de, voilà, il y a une forme
d'ingérence
dans le travail artistique.
Et je pense aussi qu'il y a des chaînes qui ont, parfois le courage et puis ils tiennent pour qu'une série s'installe, parce que parfois une saison ne suffit pas à ce que les gens s'y intéressent.
C'est vrai.
Il en faut 2, il en faut 3. Et là après on dit ah putain cette série est géniale, bah oui il y a déjà 8 saisons, rattrape-nous. Ouais. Et voilà, et donc là c'est vrai que c'est un peu mordant l'œuf, c'est dommage.
Ça laisse plus de temps, vous voulez dire, ouais. Les chaînes traditionnelles.
Et vous, Isabelle, quelle expérience, plateforme, série, tournage, est-ce que...
Très peu. Ouais. j'ai jamais travaillé pour une plateforme. Ouais. Les seules séries que j'ai faites, c'était 3 épisodes pour France Télé, sur Victor Hugo.
Autre clin d'œil à la commune.
Canal Plus, voilà, mais
autre clin d'œil, parce que Louise Michel et Victor Hugo...
Absolument, on en parle d'ailleurs dans la pièce.
Si nous passions maintenant au prix de la semaine, voilà. Parce que il n'y a pas que Will Smith qui file des claques à Chris Rock, il y a aussi Tom Villa qui file des claques.
Aujourd'hui, Nagui va décerner le prix de la fin de carrière de la semaine, et dans cette catégorie, les nommés sont. Premier nommé, Bruce Willis, qui a annoncé prendre sa retraite à 67 ans pour des raisons de santé. Alors, à la vue de ses derniers films, je croyais que c'était pour des problèmes de scénario. Mais non, voilà.
Oh, je respecte rien. Ah bah voilà.
Deuxième nommé, Will Smith, qui a réussi à tuer sa carrière le jour où elle est censée être au paroxysme. Voilà, c'est la preuve qu'on est définitivement revenu au monde d'avant la pandémie. Parce que cette gifle, elle a choqué tout le monde par sa violence, mais personne n'a dit donc c'est pas Covid. Putain, j'espère qu'il a mis du gel quand même.
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est bien l'amour tendre.
Et troisième et dernier mec nommé, le poisson d'avril. Vu l'actualité ces derniers temps, il est mort, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui ? J'ai plus rien. Celui qui va se faire un poisson d'avril en 2022, c'est le roi des cons, c'est vrai. Après, s'il y a des candidats à la présidentielle qui aiment se balader au Trocadéro le dimanche, qui veulent révéler que c'était un canular, moi, il n'y a pas de souci.
Ah oui, Smith, non, le gagnant.
Et le grand gagnant dans la catégorie de la fin de carrière de la semaine, c'est... Bruce Willis.
Oh.
Bah ouais, bah Will Smith. Okay. Okay. On est vendredi. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus sur Will Smith ? On a été jusqu'à interviewer la mère de Will Smith. C'est juste parce qu'on n'a pas retrouvé sa nounou, son podologue ou sa prof de maths. Mais puis surtout, il s'est excusé sur Instagram. Alors, il a frappé quelqu'un devant des millions de téléspectateurs et il a écrit un petit texte sur Instagram. Voilà, c'est comme si Poutine faisait demain ses excuses, mais sur Fortnite. Donc ce matin, rendons hommage à quelqu'un qui a passé sa carrière à péter des gueules, mais pour de faux. Alors, je sais qu'il n'est pas mort, Bruce Willis, mais je trouve ça triste de rendre hommage que quand les gens sont morts. Alors, les mauvaises langues diront que Bruce Willis est quand même un crâne chauve et le même sourire depuis plus de 30 ans. C'est vrai qu'un crâne chauve et le même sourire depuis 30 ans, c'est aussi la définition de Jean-Michel Apathy. C'est pas la même carrière. Non, là, Bruce Willis a décidé de prendre sa retraite. Alors, l'une des raisons qui est triste, c'est qu'il est atteint d'aphasie. Donc, c'est un trouble du langage. Comme après un passage de Will Smith dans une cérémonie, c'est une maladie qui empêche le patient de communiquer normalement. Du coup, faudra surveiller Jean Lassalle. voilà. Alors là, je sais que faire des vannes sur la maladie, c'est un coup à se prendre une tarte dans la gueule. Hein. C'est vrai que c'est pour ça maintenant, je fais que des vannes sur les gens qui sont pas là ou qui nous écoutent pas. Voilà, pas de risque. Je comprends aussi qu'il arrête sa carrière Bruce Willis. C'est vrai, sauver la planète. Avant, sauver la planète, c'était Bruce Willis qui explosait, je sais pas, des astéroïdes, qui pétait les gueules à des terroristes. Aujourd'hui, le mec qui sauve la planète, c'est un mec qui arrête de manger de la viande. Ça a moins de gueule, c'est vrai. D'ailleurs, c'est très idiot ce que je viens de dire, parce que Bruce Willis a été le premier super-héros avec un physique du quotidien. C'est vrai, il n'y avait pas besoin d'un smoking ou d'une Aston Martin, ni besoin d'une cape ou de super-pouvoir, ni même d'être hyper bodybuildé. Non, Bruce Willis, tout seul, pieds nus, en Marseille, avec une calvitie, il stoppait des terroristes. Sur le papier d'Ayard, c'est camping qui a mal tourné. D'ailleurs, ceux qui sont le plus embêtés par l'arrêt de sa carrière, c'est W9. Ah bah il n'y a pas une semaine où ils diffusent pas un film. Là ils ont plus rien de nouveau. Bon, en même temps, la nouveauté sur la TNT. Bah, tu retires Columbo, Hanouna, Bruce Willis, il tresse des docus sur les gendarmes de Palavas le 15 août. C'est vrai, c'est Bruce Willis, pour résumer, c'est l'acteur des années 90 qu'on préfère en VF. Mais ça, bon, je vous parle d'un temps que les jeunes de moins de 20 ans qu'on ne peut pas connaître, hein, voilà. Et on embrasse aussi Patrick Poivet, qui nous a quittés il y a 2 ans. Bruce Willis, c'est 116 films dans toute sa carrière. J'insiste sur le 16, parce que 16, c'est exactement les derniers films qu'il a fait, mais que personne n'a vu. Ça sortait même pas au cinéma, c'était que en VOD. Il jouait soit un ancien flic, soit un ancien du FBI, soit un ancien de la CIA, soit un ancien du SWAT, alcoolique, veuf, à moitié ermite, qui apprenait du service pour retrouver sa fille et qui a été enlevé. Mais bon, bref, Bruce Willis, je vous souhaite une bonne retraite.
Merci. Si, Tom Villa. Au Théâtre Antoine, donc, Les Amants de la Commune, histoire d'amour passionnante, l'histoire, une partie de l'histoire de France aussi, et des fondamentaux, ou des fondations en tout cas de notre société aujourd'hui. C'est à la fois cette mise en scène historique, mais aussi cette tension amoureuse, hein, avec un dénouement d'ailleurs, et chacun se projettera, parce que on se met à la place de l'une ou de l'autre en disant, et si j'étais elle ou si j'étais lui, que faire? Répondre aux ordres de mes supérieurs, ou répondre à mon cœur et à mes intimes sentiments ou à mes principes. Toute la question est là, et c'est tous les vendredis, samedi, dimanche à 19h au Théâtre Antoine. Dans votre actualité, Isabelle Carré, et vous reviendrez, j'espère, nous en parler.
Oui, oui.
Fin mai, la sortie du roman. Oui. Le jeu des six. Votre nouveau roman, une femme qui arrive dans un aéroport à Aérogare, enfin que personne ne vient chercher en fait, c'est ça ?
Oui, c'est ça, c'est une idée qui m'est venue il y a 20 ans maintenant. J'étais en tournage avec Cédric Kahn sur l'avion, et j'oubliais toujours, comme tout le monde, de commander mon taxi. Et un jour, je me suis dit, et si je prenais le taxi d'une autre, si je me faisais passer pour... pour cette madame.
Si je décidais de ma vie, si j'écrivais mon propre rôle, c'est ça ?
Non, si je j'allais vraiment dans un autre taxi.
Oui, mais c'est donc
dans le rôle de quelqu'un d'autre.
Et cette femme écrit, réécrit sa vie.
Exactement.
Devient quelqu'un d'autre.
Jusqu'où j'irai en fait.
D'accord. Ouais.
C'est ça le point de départ. Après, okay. C'est beaucoup d'autres choses, le jeu des six, mais c'est ça le point de départ, oui.
C'est chez Grasset que
ce
roman sera publié. Vous retrouvez Bernard Campan pour la dégustation, cette fois-ci.
En film.
C'est au cinéma.
Qui sortira fin août. On a le temps d'en. J'ai le temps de revenir 10 fois.
C'est Yvon. c'est Yvon qui va réaliser la pièce qu'il a écrite.
Yvon qui va réaliser, oui. Et il y a toute l'équipe, Mounir Amamra, Olivier Clavry, Eric Vélard, tout le monde est là.
C'est important de le préciser, parce que c'est pas toujours le
cas
quand une pièce devient un film.
Ouais.
Vous réalisez de votre côté, Pierre de la Donchamp, âme sœur.
Oui.
Non.
C'est le.
Je dis une bêtise, non? Je sais pas. Vous avez réalisé.
Oui, oui, il y a longtemps.
Oui, le court métrage.
Oui, mais puisqu'on parlait de réalisation justement et de passer à cet acte-là, c'est une envie qui continue, qui est toujours présente ou pas?
Oui, je suis toujours en écriture de mon premier long métrage, en espérant qu'il devienne quelque chose d'autre que du papier.
Oui.
Mais j'aime beaucoup ça, c'est long et fastidieux, mais je me dis qu'il faut prendre son temps pour le faire.
Petite leçon d'amour, c'est un film où vous partagez l'affiche avec Laetitia Hadoche.
Oui, c'est ça, ça sort le 4 mai, je crois.
Et puis il y aura également Reprise en main de Gilles Perret, et Vous n'aurez pas ma haine, l'adaptation du livre et de la pièce aussi qui avait été faite. À propos de pièces, j'ai oublié de préciser que vous jouez Isabelle avec José Garcia.
Oui, c'est les dernières représentations, mais il y a une petite tournée
au Théâtre du Rond-Point.
Enfin, Biographie un jeu de Max Frisch, qui est une pièce magnifique aussi sur le champ des possibles, qui ressemble un petit peu.
C'est ce week-end, hein, les dernières représentations,
voilà,
c'est ça.
Exactement, qui ensuite, ressemble un petit peu au jeu des six d'ailleurs.
Et grande leçon, Isabelle arrive à faire deux pièces l'une après l'autre, oui. En ayant en plus une extinction de voix et en plus en étant allergique à tous les pollens et tout ce qui est en train d'arriver en ce moment.
Ah, la drogue. Donc, la drogue.
Je sais pas comment elle tient.
Et elle ne vous aime pas et elle vous retrouve tous les vendredis, samedi et dimanche sur scène. C'est ça qui est fort.
Zirtek est reparti.
Des excuses à présenter, Morgane Cadignan.
Ouais, bah désolé pour vous, Nagui. Qui ont l'entendu ce matin, tout bonnement perdu le sens du temps, parce que non, une scène de 5 minutes, ça n'équivaudra jamais à un film de 1h40, temps complet et vérifié de la femme défendue. Alors, deux explications, soit c'est le début de la fin, mon grand, soit vous êtes un sacré coquin, et ça franchement, bah, ça m'étonnerait. Désolé pour Isabelle Carré qui a découvert ce matin que Pierre de la Donchamp avait décidé de jouer Les Amants de la Commune, pas pour la pièce, mais plus pour le côté « ouais, c'est que 3 jours par semaine, quoi ». Écoutez, mais c'est comme nous, on fait plus cette émission pour avoir nos week-ends libres que pour rencontrer des collègues talentueux, hein, franchement. Et enfin, un dernier désolé pour Alexis Le Rossignol, à qui je vais apprendre en direct que pour le rôle de Jack dans Titanic, c'est mort.
C'est mort aussi.
Et pareil pour la grande vadrouille, je crois que le tournage est terminé.
Merci Morgane. Les Amants de la Commune, Isabelle Carré, Pierre de la Donchamp, une pièce qui est écrite par Laurent Sexic en collaboration avec Antoine Maury. On l'a entendu tout à l'heure, et je pense que la caution apportée par notre experte Laure Godineau, historienne aimant la Commune,
elle est enthousiaste, ça fait plaisir.
Touchée et bouleversée par la manière dont vous faites revivre ces moments, et l'un des plus beaux des compliments que l'on puisse faire en tout cas, parce qu'elle était émue. Mise en scène et transmettez nos compliments à Géraldine Martineau de la Comédie Française. Vendredi, samedi, dimanche, 19h, Théâtre Antoine. Merci Isabelle. À très vite,
merci,
donc,
à
Isabelle.
Très
lundi, Céline Salette sera présente dans cette
émission. J'adore Céline
Salette. Merci Pierre de la Donchamp. Merci Isabelle Carré. Bonne journée, bon week-end. À la suite.